Vous avez dit par rapport au prix des mariages, on a légiféré par rapport à ça, c'est-à-dire il y a eu de la part de l'État, il y a eu une décision qui a été prise par rapport au prix maximum, enfin bref, voilà.
C'est effectivement une question tout à fait à propos parce qu'en fait, la dimension un peu inflationniste des dépenses a beaucoup impressionné au Tadjikistan, en Ouzbékistan, au Kyrgyzstan, au Kazakhstan, j'en parle même pas, mais on est encore dans un autre niveau. Et avec des réactions étatiques différentes. Mais au Tadjikistan, c'est là où ça a été le plus radical. Il y a eu une législation en 2007 qui a été réitérée en 2017, qui définit point par point les fêtes que vous avez le droit de célébrer publiquement, les fêtes et le nombre que vous avez le droit, qui vous est interdit de célébrer publiquement, et donc il est nécessaire de le faire que dans le milieu privé, donc pas dans un restaurant par exemple, avec seulement une quinzaine d'invités, etc. Et pour les mariages, il est défini combien de limousines vous avez le droit de louer, combien d'invités, combien de temps la cérémonie peut durer, combien les restaurants ont le droit d'accueillir, etc. Le nombre d'artistes, on parlait même en nombre de degs, c'est-à-dire en nombre de chaudrons de cuisine. On peut cuisiner. Vous avez le droit à 5 chaudrons de riz, puisque le plat national est à base de riz. Donc ça définissait déjà les contours d'une politique qui visait à restreindre vraiment les dépenses au nom du bon développement, en disant vos dépenses, elles sont irrationnelles, c'est du n'importe quoi. Là, il faut qu'on suive, et puis c'est évidemment sous l'influence d'agences diverses et variées, hein, économiques, mais il faut absolument rationaliser tout ça. Et donc, ça revenait à quoi? Ça revenait à limiter concrètement aussi la sphère de compétence des femmes, hein. Mais l'État n'est pas le seul à avoir légiféré, ou en tout cas à avoir, disons, beaucoup discouru sur la question. Les religieux aussi, hein, les officiants religieux, donc musulmans en l'occurrence, ont beaucoup condamné aussi ces dépenses. Alors, dans le contexte du Tadjikistan, on a un islam, il y a dans un islam sunnite de rite hanafite, enfin, je ne sais pas si ça vous parle, mais bon, bref, c'est un sunnisme qui est très lié, enfin, en tout cas c'est une modalité religieuse, une manière de gouverner la religion au Tadjikistan qui est très étroitement liée à l'État. Ça fait suite à l'époque soviétique. Hein. À l'époque soviétique, il y avait une gestion en centrale de la religion, interdite mais pas complètement, enfin voilà, je rentre pas dans les détails. Mais donc on a un mouftiat au Tadjikistan qui est directement sous l'autorité du président. Et donc le président est soutenu par les imams du muftiat qui disent mais l'islam impose la frugalité. Ce discours, il est aussi promu par les tenants d'un islam moins officiel et beaucoup moins comment dire, beaucoup moins aligné avec le gouvernement, c'est l'islam salafiste, qui est assez important au Tadjikistan aussi, et qui est, en tout cas, qui entretient un discours autour de la nécessaire frugalité, et qui s'accompagne aussi d'un discours autour de l'interdiction de la musique pendant les mariages, etc. Alors quand j'y étais, il y avait certains mariages, effectivement, qui donnaient lieu à des mariages sans musique. En tout cas, il est d'usage que le mariage d'un mollah, enfin au Tadjikistan, un mollah, c'est quelqu'un qui connaît bien la religion, qui a étudié la religion, mais qui n'a pas de position officielle, contrairement à un imam. Les mariages de mollah sont toujours un peu plus sérieux, un peu plus stricts, on danse moins. Et puis surtout, on ne boit pas d'alcool. Parce que sinon, au Tadjikistan, on boit de l'alcool quand même. Mais, enfin, je veux dire, il y a toujours une table pour ceux qui veulent boire de l'alcool. Donc, il y a toujours une sorte de. Où il n'y a jamais assez de place d'ailleurs, mais. On préfère restreindre que trop ouvrir la possibilité de la boisson. Mais donc, et ces mariages-là n'ont pas vraiment pris. Hein. Les mariages hyper salafistes, enfin au sens sans musique, sans danse, etc. Ce qui signifiait aussi sans échange. Parce que dans bien des cas, la frugalité, ça veut dire que l'échange de cadeaux, il est réduit au strict minimum. Et ça, ça n'a pas trop pris. Par contre, il y a quand même eu des sanctions de la part de l'État pour les gens qui dépensaient trop. Parce qu'il y a eu plein de contournements. Alors, les premiers à contourner, vous vous en doutez, c'est l'élite. C'est ceux qui font les lois, en fait, qui ont été les premiers à contourner ça. Et le président en premier, qui a été filmé à son insu, et la vidéo a été mise sur YouTube pendant quelques jours, pour le mariage de son fils. Et donc, c'était en 2008, donc un an après la promulgation de la première loi, où là, ça n'a pas été pris au sérieux et tout le monde a contourné la loi. Après, en 2017, et la réitération législative, là, par contre, les sanctions ont véritablement des effets. Et puis, les gens commencent à quand même se réapproprier ce discours de pourquoi dépenser autant, en fait. Surtout qu'il est, c'est vrai qu'il est plus coûteux pour des pauvres, même proportionnellement, surtout proportionnellement, il est plus coûteux pour des pauvres que pour des riches. Donc, parce que les 40 salaires mensuels, en fait, ils vont peut-être monter à 60 chez les plus pauvres et à 30 ou 20 chez les élites. Donc, on est dans des inégalités qui s'accroissent et on a toute une partie de la population, notamment urbaine, une forme de classe moyenne urbaine qui émerge aujourd'hui, qui dit non, on arrête tout ça, on arrête ce micmac d'échange là qui nous pousse à dépenser énormément. Et donc il y a une réelle appropriation du discours de mesure en fait aujourd'hui, avec des effets certains, qui est que les mariages coûtent un peu moins cher. Il constitue quand même une grosse dépense pour les familles. Mais paradoxalement, il constitue une dépense plus lourde qu'avant, parce qu'en fait, le cercle des participants est moins nombreux. Autrement dit, participe au financement d'un mariage, maintenant plutôt, disons, la famille nucléaire un peu élargie, alors qu'auparavant, on avait la famille élargie, très large, qui pouvait participer au financement du mariage. Donc en fait, on participe moins au mariage des autres, mais c'est plus lourd de participer au mariage de ses enfants.
J'avais aussi une question par rapport à ça, et surtout, j'ai remarqué l'absence de tiers, surtout dans les alliances. C'était vraiment des histoires entre justement lignages gérés par les femmes, c'était assez étonnant. Et je me demandais un peu la même question que monsieur, c'était finalement, est-ce qu'il y a, il y a vraiment un tiers quand même qui valide les échanges à un moment donné, qui peut les contrôler? Donc c'est vraiment dans la poursuite de cette question-là, mais plus concrètement, je veux dire vraiment qui serait là pour valider les choses, qui verrait les choses passer ou pas. Et aussi, est-ce que tu as travaillé aussi avec des Ismaéliens? Est-ce qu'il y avait une mesure plus suivie chez eux ou pas? C'est une question qui m'intéresse beaucoup. Et enfin, mais donc vraiment, si tu les prends ou pas, les questions, parce que j'en ai plein, donc je vais arrêter à un moment donné. J'étais vraiment très frappé par le fait de vouloir voir en fait, le visage du futur conjoint ou conjointe, parce que dans les alliances, la plupart du temps, justement, c'est quelque chose qui est mis entre parenthèses, qui est même dangereux, en fait. Et donc là, je me dis, tiens, pour reprendre un peu le titre du départ, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont laissés de côté, considérés comme moins en fait attrayants, par exemple? Voilà. Et qu'est-ce qu'il advient d'eux en fait? Voilà. Monsieur, tu réponds pas aux questions vraiment.
Merci beaucoup pour ces questions. Sur la question du tiers, en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'enjeu de la très forte publicité des cérémonies et de leur démultiplication, en fait, c'est un enjeu où plus tu fais des événements dans lesquels tu mets en scène ton mariage ou le mariage qui va advenir, plus tu donnes au public l'occasion de valider ce mariage. Et il y a toute une partie de l'ouvrage, notamment quand je m'intéresse à la dimension rituelle, c'est-à-dire tous les petits rituels qui sont censés être faits, etc. En fait, la plupart des gens, ils ne les connaissent pas tous. Par contre, même les femmes, je veux dire. Par contre, toutes les femmes ont une idée à peu près du scénario, du script en fait matrimonial, mais toute femme qui organise le mariage de son enfant doit mettre en scène la demande d'approbation par les autres femmes du rituel en train de se passer. Autrement dit, vous êtes bien sûr, on fait comme ça, ok, et après on fait comment, ok, c'est comme ça, etc., etc. Donc en fait, il y a une approbation en continu, en live, hein, c'est vraiment ça, du rituel en train de se faire. Évidemment que l'idée, quand une femme marie son enfant, elle a déjà assisté à plein de mariages, donc elle a quand même une idée de comment ça va se passer. Mais ce processus toujours de requérir l'approbation des autres, elle se voit déjà, même dans la sphère rituelle qui serait la plus, qu'on pourrait penser la plus rigide en fait, et surtout la plus essentielle. Mais non, donc déjà ça joue là. Et après, de façon continue, que ce soit pour montrer les cadeaux, montrer les échanges, montrer faire des toasts, parce qu'un des éléments qui a été récupéré aussi de la culture soviétique, enfin russe en l'occurrence, c'est le toast, qui va aussi, d'ailleurs avec ou sans alcool maintenant, peu importe, mais on fait des toasts. Et ça, ce toast, c'est cette manière qui est un mélange aussi, la culture du toast s'est réappropriée avec la pratique persane de la récitation poétique, donc on a une sorte de mélange entre les deux qui est assez sympathique et qui, lors des mariages, est performé en permanence et donc qui donne à voir, à raconter la famille, etc. Donc en fait, on donne au public ce qu'il veut savoir et le public, fort de cette connaissance, à la fois par la vue et par ce qu'il a entendu, est capable de raconter plus tard comment ce mariage s'est passé, s'il s'est passé dans les règles, etc., etc. Donc, le tiers, il est là. Le tiers, il est là. Après, je dois quand même signaler un élément qui est que quand on regarde de plus près l'alliance, les questions d'alliance, comment on choisit son conjoint, de fait, l'endogamie est très forte. Hein, au Tadjikistan, l'endogamie, c'est... Alors, elle est très critiquée par l'État. Elle a, elle aussi, été légiférée, mais l'État tadjik légifère sur tout. Enfin, j'exagère pas en fait. Les vêtements féminins sont l'objet d'une loi, le prénom de vos enfants sont l'objet d'une loi, etc., etc. Il y a énormément de choses qui sont l'objet de lois. Alors, on sait que c'est pas toujours appliqué, hein, mais il y a quand même une tentative, une pratique de l'ingénierie sociale qui est très marquée et qui est là de culture soviétique très clairement. Mais donc. Même si il est interdit aujourd'hui pour des cousins de se marier, y compris pour des cousins qu'on appellerait nous germains, donc des enfants de frères et sœurs, ou des petits-enfants de frères et sœurs de se marier entre eux, en fait, c'est très fréquent au Tadjikistan. Et ce qui est très fréquent aussi, c'est les répétitions d'alliances. C'est-à-dire que de deux familles élargies... Alors, on ne parle pas trop de lignage au Tadjikistan. La notion de lignage est un peu perdue. Parce qu'on est dans une tendance cognatique. Il y a une inflexion patrilinéaire, mais on est... Bon, je ne rentre pas dans ces détails, mais les lignages sont moins nets qu'au Kyrgyzstan ou au Kazakhstan. En fait, la tendance endogamique fait que on est sur des familles, on peut aller dans un village où en fait 80% du village est lié d'une manière ou d'une autre par un mariage, quoi. Donc ça, c'était la grosse tendance renforcée par l'époque soviétique qui, en valorisant la politique agricole, en fait, a ancré les gens sur place. La politique soviétique de agricole, du coton, des fruits, etc. au Tadjikistan, en fait, elle a permis aux gens de rester en milieu rural. Et enfin, elle les a aussi empêchés d'aller en ville, puisqu'il y avait des formes d'assignation. Voilà, les gens ne pouvaient pas changer de résidence comme ça. Donc, en fait, le tiers médiateur, c'est votre environnement social. D'où la grande importance accordée à la rumeur et à la réputation. La rumeur est une source plus ou moins fiable d'informations, mais plutôt fiable que moins, en fait. Et c'est aussi une manière d'agir sur les autres. Donc ça, ça marche dans les lieux où l'interconnaissance est très forte, où l'endogamie est très forte notamment. Donc ça, c'est pour répondre à ton deuxième point. J'ai un peu perdu le fil. Et le 3... Ah oui, les laissés pour compte de l'amour. Ou de la séduction. Non, mais c'est un vrai point. Et en fait, c'est un point sur lequel je suis en train de travailler. C'est-à-dire qu'avec l'émergence du mariage d'amour comme une raison légitime... Enfin, de l'amour comme une raison légitime au mariage, ça pose la question du degré d'implication des parents, évidemment. Et puis de... qui quid de celles et ceux qui ne trouvent pas l'amour, quoi. Mais ça, j'ai pas encore la réponse. Je peux peut-être donner une petite statistique qui est que dans les années, je crois que c'était une statistique de 2015, on était à 99% des personnes de plus de 40 ans au Tadjikistan qui avaient déjà été mariées une fois. Donc pour l'instant, le célibat, c'est pas vraiment une difficulté. Hein. En tout cas, l'absence totale de mariage. Par contre, et là ça me permet d'enchaîner, je me fais ma propre transition vers la dernière partie de l'ouvrage qui est sur les, sur les ruptures de mariage. Qu'est-ce que ça fait dans une société où les femmes... alors j'ai pas dit, mais l'une des conclusions du livre, et je pense pas que ça soit un spoiler, hein, mais c'est de dire que bah, pour une femme, le statut envié... Pourquoi le mariage est si important ? Parce que le statut le plus élevé d'une femme dans la société tadjik, c'est le statut de belle-mère. C'est le statut de belle-mère, c'est-à-dire d'une femme qui a été mariée, qui a marié son fils, qui peut déléguer ses tâches domestiques à sa belle-fille, qui peut s'occuper des tâches économiques, d'échange et de sociabilité en sortant de la maison. Parce que sa belle-fille y étant, elle peut désormais beaucoup plus facilement sortir, même quand c'est pour travailler. En fait, un certain nombre de femmes se mettent à travailler à 40 ans parce qu'elles ont marié leur fils de 20 ans et que du coup, elles peuvent déléguer la présence dans la maison, la nécessité d'avoir une porte toujours ouverte, accueillante, hospitalière, etc., qui font partie en fait, des valeurs encore très marquées dans les villages. C'est grâce à ça que en fait, avoir une belle fille chez soi, ça permet d'aller voir ailleurs. Et ça, c'est un peu un c'est pas propre au Tadjikistan, c'est un classique des sociétés patrilinéaires qui croisent avec elles une forme de patrilinaire et patriarcale. Enfin, c'est-à-dire où il y a une assignation très forte des femmes à la fois à la nécessité de reproduire à la famille de son mari, mais tout en restant à la maison, tout en restant, etc. Le moyen qu'elles ont de s'en sortir, bah, c'est d'avoir une belle vie. Donc, le mariage reste extrêmement désirable. Et désiré. Je veux dire, il n'y a quasiment aucune femme qui dit qu'elle ne veut pas se marier. Enfin, c'est très compliqué de penser ça. Alors aujourd'hui, on peut vouloir se marier différemment. Pas forcément faire la fête comme il y a 10 ans. Oui, mais le mariage, c'est quand même un peu pour moi. J'ai le droit d'avoir des amis. Alors ça, c'est un discours qui est tout nouveau. Dans les choses nouvelles, il y a... toute l'émergence du couple dans le cérémonial de mariage. Tout ça, ça n'existait pas. Maintenant, il y a la première danse, il coupe le gâteau d'une seule main avec un couteau. Tout ça n'existait pas du tout. Mais tout ça, ça émerge. Donc le couple émerge comme un nouveau protagoniste du mariage, là où il était inexistant. Du cérémonial, en tout cas. Est-ce que ça traduit l'émergence du couple comme une entité autonome de la famille ? Je crois que c'est un peu trop tôt pour le dire. Le couple est encore très dépendant. Déjà, il ne vit pas tout seul. Il vit chez les parents du jeune homme après son mariage, donc il n'est pas indépendant. Souvent, économiquement, ils n'ont pas les moyens de vivre tout seul. Et l'argent qui est dépensé pour leur mariage, il est aujourd'hui seulement, dans certaines familles, réalloué plutôt que de mettre dans une cérémonie de mariage. On va considérer qu'on va doter le couple. Il y a certains parents qui ont cette nouvelle stratégie. C'est-à-dire qu'on fait moins de dépenses pour la cérémonie, et on leur met sur un compte en banque pour leur installation, quoi. Donc il y a une tendance comme ça. Donc que vont devenir les célibataires, je ne sais pas, mais pour l'instant, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et c'est tellement pas désirable d'ailleurs d'être célibataire que quand on sépare, quand on est un homme et qu'on se sépare, qu'on divorce, c'est possible. Alors dans l'islam, le mariage n'est pas un sacrement, hein. C'est un contrat de droit privé. Pour un homme, en général, c'est très facile de se remarier très vite. Pour une femme, c'est un autre enjeu qui va dépendre... En général, les femmes veulent se remarier. Elles ne veulent pas rester toutes seules. Et en même temps, il y a cette tension de si elles ont déjà des enfants qui ont grandi, elles ont un travail, elles ont une résidence à elles, pourquoi se remarier finalement ? Pourquoi se remarier ? Un certain nombre d'entre elles vont le faire quand même, soit parce qu'elles tombent amoureuses d'un autre homme, soit, et c'est pas mutuellement exclusif d'ailleurs, parce qu'elles veulent s'assurer de ne pas être du côté des féminités suspicieuses, hein, des femmes de mauvaise vie, parce que on est dans l'opposition classique de la bonne mère et de la putain, hein, que trace la ligne de mariage. Donc, elles peuvent vouloir se remarier comme ça, pour cette raison-là. truc, c'est qu'une femme de 40 ans, si elle veut se remarier, c'est rare qu'elle puisse avoir le privilège de se remarier comme une première épouse. À moins de rencontrer un veuf. Ça, je vous cite une amie. Si tu as la chance de rencontrer un veuf. Mais sinon, ce sont beaucoup de ces femmes que j'ai appelées démariées, parce qu'elles ne sont pas toujours divorcées. Enfin, en tout cas, il y a une séparation de nature qui peut être un peu floue. Elles vont se remarier comme deuxième épouse, en grande partie. Et donc, en se remariant comme deuxième épouse, bah, c'est à double tranchant. C'est un mariage de seconde zone. Hein. Il n'y a plus la fête, il n'y a pas tout ça. Hein. Ce n'est pas un mariage qui est public. Et en même temps, c'est un mariage de choix. Parce que ce n'est pas un mariage qui est organisé par les parents. Donc, tant pour l'homme qui prend sa deuxième épouse que pour la femme qui choisit de le devenir, ils se choisissent. Les hommes disent la première femme est pour les parents, la deuxième femme est pour le cœur. Il y en a d'autres qui disent la première est pour la maison, l'autre pour les vacances. Mais ça dépend de... ça dépend des choix. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pour vous montrer ici toute l'ambiguïté du statut de deuxième épouse. Pour des femmes, certaines femmes qui deviennent deuxième épouse, ça veut dire quoi? Si elles ne sont pas les premières épouses, ben elles ne vivent pas chez leurs beaux-parents. Elles n'ont pas à s'occuper d'eux. Et elles dépendent moins de l'autorité de leur mari, en fait. Elles habitent chez elles. Elles ont leur propre vie. Elles ont leurs propres enfants. Et la relation qu'elles peuvent avoir avec cet époux peut être une relation de compagnonnage. Assez classique, par ailleurs. Mais tout dépend du degré de stabilité financière et économique qu'elles ont à la base. Et donc, un des effets totalement inattendus de cette enquête, c'est de réaliser qu'il y a des... On ne devient pas deuxième épouse pour avoir de nouveau un appartement où vivre, parce que quand on est séparé... Lors d'un divorce, une femme, elle quitte sa maison. Souvent, la maison, elle n'est pas à elle, elle est fournie par le mari. Donc, elle est au nom du mari. Lorsqu'une femme est répudiée ou lorsqu'elle demande le divorce, qu'est-ce qui se passe? Elle doit quitter l'appartement ou la résidence familiale, souvent avec ses enfants. Il est très fréquent qu'elle garde la garde des enfants. Mais elle n'a pas de lieu où vivre. Sauf lorsque, une fois rentrée chez ses propres parents, où il y a par ailleurs ses frères et ses belles-sœurs, donc ça peut être compliqué, elles peuvent se mettre à travailler. Leurs parents peuvent se dire, on va leur payer des études qu'elles n'ont pas eues parce qu'elles se sont mariées à 18 ans. Mais cette fois, on leur paye des études pour qu'elles deviennent autonomes financièrement parce que nous, on ne peut pas assumer tout le monde. Et donc ça, j'ai vu dans un certain nombre de villages, j'ai vu ça. Vu qu'il y a encore le système d'études à distance, hérité des soviétiques, là, pour le coup, on a des femmes qui deviennent comptables, on a des femmes aussi qui deviennent infirmières, on a des femmes qui deviennent trésorières, etc. Et institutrices aussi. Et qui accèdent à l'emploi salarié, là où elles n'avaient jamais travaillé, en fait. Parce que même pour celles qui avaient fait des études, elles se sont mariées assez tôt, elles ont eu un enfant, du coup, elles ont dû rester à la maison, etc. Parce que c'est elles qui gardent les enfants en bas âge jusqu'à 6 et 6 ans. Donc, de toute façon, elles peuvent... Enfin, c'est très compliqué de travailler, etc. Donc, on a des femmes dont le divorce est à la fois une rupture qui peut être une faille vraiment existentielle à un moment donné, enfin, extrêmement douloureux, dur aussi, puis des situations de précarité, mais qui peuvent rebondir aussi dans des situations. Ça peut être aussi une opportunité de rebond avec des femmes qui finissent par gagner leur vie, qui peuvent, avec l'aide, le soutien de leurs parents, s'offrir un appartement. Et c'est parce qu'elles ont un métier et qu'elles ont un appartement qu'elles deviennent désirables comme deuxième épouse. De fait, leur autonomie financière leur offre aussi une autonomie de choix affectif. Et ça va avec. Donc les deuxièmes épouses, ce n'est pas seulement des femmes extrêmement précaires qui se marient comme deuxième épouse par défaut, c'est aussi un certain nombre de femmes qui ont pu s'autonomiser d'une manière ou d'une autre et qui... Et pour qui c'est l'occasion de s'offrir une forme de compagnonnage légitime aux yeux de tout le monde, donc qui ne va pas leur être reproché ou qui ne va pas afficher une sexualité dite suspicieuse, etc. Ouais.
Merci pour la présentation. Moi, j'ai une question qui me taraude depuis un peu le début. Je crois qu'il y a eu une perche un peu lancée à un moment donné sur justement les femmes qui ne sont pas mariées mais qui ont un enfant. Et donc,
qu'est-ce qu'elles adviennent, quelle place elles peuvent occuper, quelle stratégie elles peuvent avoir, etc. Et autre question, peut-être aussi en lien avec les questions de légifération, etc., c'est la question des variations entre classes sociales éventuellement, qui ont été peu abordées dans la présentation, peut-être plus dans le livre. Mais du coup, j'aurais aimé avoir un peu plus d'éléments pour savoir un petit peu si la légifération, le fait qu'il y ait eu ces lois-là, ça soit en lien avec ça, justement, ou pas, et si ça a eu les effets escomptés, et puis ouais, un peu plus d'éléments sur les variations dans les cérémonies, etc., qui auraient pu être observées en fonction des classes sociales.
Merci beaucoup. Alors, pour les femmes qui ont des enfants et qui sont célibataires, alors, il y a très peu de femmes et je crois que je n'en ai pas rencontré de femmes qui ont eu un enfant hors mariage.
Parce que il y a des choses, enfin, ça rentre juste pile poil, donc je suis désolé, je me permets juste, mais s'il y a une grossesse, est-ce qu'on accélère un mariage ou pas? Enfin, c'est ça la question du coup.
Oui, la réponse est oui. Pour le coup, là, j'ai effectivement découvert une mariée enceinte, 7 mois. C'était juste. Donc ça arrive, mais c'est rare. Hein, on essaie quand même d'être. Mais on accélère les choses, ça c'est sûr. En cas de grossesse, on accélère les choses. Aussi, ça peut arriver, mais en fait, faut se dire que là, ce que je propose, c'est des grandes lignes. Évidemment qu'il y a toujours des variabilités. Par contre, le caractère systématique du mariage, là, je crois qu'il est avéré même statistiquement. C'est-à-dire que on est sur un pourcentage de célibat strict, c'est-à-dire avec zéro mariage. Pas des célibataires qui le redeviennent après une séparation, par exemple, qui est très très faible, quoi. Ça arrive quasiment pas, des gens qui ne se marient pas. En fait, les femmes non mariées que j'ai rencontrées, c'est soit des femmes qui ont étudié pendant très longtemps, qui ont loupé le coche et qui n'ont pas souhaité se marier comme deuxième épouse, qui était le choix qui leur restait, en fait. Et ça, c'est des femmes qui ont souvent été socialisées à la fin de l'époque soviétique, où il y avait encore dans cette idée que l'éducation était très importante, y compris pour les femmes, hein, même si ça n'a pas du tout concerné la majorité des femmes tadjiks, mais il y avait ce principe-là. Donc elles ont été élevées quand même là-dedans, dans des familles de l'intelligentsia de la capitale, mais qui ensuite, au moment de se marier, se sont retrouvés pendant la guerre civile et qui ont refusé, ou dont les parents ont refusé, d'être mariés rapidement comme ça se faisait pendant la guerre civile pour sécuriser les femmes. Et donc, en laissant passer le coche, bah, elles se sont retrouvées non mariées. Et l'autre catégorie de femmes que j'ai vues qui ne s'est jamais mariée ou qui ne se marieront jamais sont des femmes avec des troubles mentaux. Et donc on est sur des et dont les troubles mentaux sont avérés et dont les parents sont en capacité de la garder à la maison. Voilà. Sinon, enfin, la question du célibat, c'est-à-dire une femme qui ne se marie pas, ça reste quand même très à la marge. Et surtout, la plupart de ces femmes qui ne se marient pas, c'est par défaut, c'est pas un souhait en fait de pas se marier. C'est très rare. Par contre, c'est sûr que pour la plupart, le souhait, c'est pas de se marier selon les normes locales ou ce qui est attendu d'elle qu'elle fasse par les voisins. Ça, c'est sûr. D'où le fait que ces femmes-là se sont tournées vers les étrangers à un moment donné. Au moment, en fait, à la fin de la guerre civile, il y a toute une série d'ONG qui sont arrivées dans le pays. Et c'est là aussi que ça a offert une porte de sortie vers le mariage pour ces femmes-là qui, en fait, du point de vue des étrangers occidentaux, n'étaient pas du tout trop vieilles à 30 ans, mais qui l'étaient, ou à 32, mais qui l'étaient du point de vue tadjik. Voilà. Et votre deuxième question, c'était sur la question des classes sociales. En fait, ce qui était très difficile pour moi, et donc je l'admets, c'est une difficulté de l'ouvrage, et c'est une difficulté que j'ai au Tadjikistan de manière générale, c'est qu'en fait, l'argent là-bas ne s'épargne pas en compte en banque, mais il circule en permanence. Donc vous donnez à un tel qui vous rendra tel jour. Donc savoir combien les gens possèdent, à part en termes fonciers, c'est quand même assez compliqué. Alors, par le foncier, on peut évaluer déjà des différences de patrimoine, mais c'est pas toujours, ça reste assez peu évident. Ce qu'on peut dire, c'est que les cérémonies sont le lieu d'expression de ces distinctions-là. Et donc, classiquement, plus ça en met plein la vue, plus vous pouvez être sûr qu'on est là dans une famille aisée. Et à titre d'exemple, je me suis rendue... Enfin, j'étais donc un jour que je logeais à Douchanbé. Il y a mon hôte qui me dit... Juliette, demain il y a le va t'acheter une robe. Demain il y a ou va te faire faire. En fait, c'est va te faire coudre une robe parce que c'est plutôt ça. Il y a le. On est invité au Choi Gashtag, donc c'est la fête de la fille. C'est même pas la fête du fils. Enfin, c'est le pré-mariage, la pré-noce chez le procureur qui est deux maisons plus loin. Donc, comme on faisait partie du quartier, on était invités. Et on était invités, pourquoi ? Pas parce qu'on se connaissait bien, mais comme c'est le procureur, il est obligé d'inviter le quartier. Peu importe qui a. Et comme c'est le procureur, il a une maison. Donc, c'est des maisons à court. Hein. Il faut s'imaginer des maisons qui peuvent être sur un ou deux étages. Donc, de plein pied ou deux étages, trois étages aussi des fois. Avec une très grande cour devant qui, normalement, sur la rue, est fermée par un portail haut. Hein, quand on est dans les rues, on n'a que des portails, comme ça, on ne voit pas dans les maisons. Par contre, on ouvre le portail. Là, c'est une grande cour, peut y avoir une fontaine, ça peut être extrêmement sophistiqué. Et là, le procureur, parce que c'était sa fille, parce qu'il a le statut qu'il a, au lieu d'inviter un artiste à performer pendant une heure et demie, il en a invité trois. Et il n'a pas invité n'importe qui, il a invité le groupe de pop... local, un autre groupe qui devait refléter son appartenance régionale et un troisième groupe qui était une femme, enfin chantée par une femme. Bref, il y avait une sorte de panachage qui faisait que il montrait qu'il était capable de tout inviter, d'inviter n'importe qui en termes d'artiste. Et ça, typiquement, une fois qu'on a fait plein de mariages, on se rend compte que celui-là, il est, voilà. Voilà, il y a un étalage, on n'est pas chez n'importe qui. Et les gens, pour pratiquer les mariages souvent, ont l'habitude, en fait, de savoir qu'est-ce qui coûte quoi. Hein ? Mais ça, c'est à tous les niveaux. C'est-à-dire que je me rappelle d'une amie qui me disait, on est allé chez sa voisine une fois, une nouvelle voisine qui venait nous inviter, qui a sorti des bonbons, qui les a mis sur l'étalage. Et pendant qu'elle allait chercher le thé, elle me dit, Juliette, regarde ça. Ça coûte tant au magasin, c'est les plus chers du magasin, ceux-là. Ils savent tout. Elles savent tout. Elles connaissent tous les prix. Donc quelque chose où moi je vois quatre sortes de bonbons différents, elle voit quatre prix différents. Ce que je veux dire, c'est que dans toutes ces pratiques-là, en fait, la question de la démonstration n'est pas toujours centrale, mais les gens ont toujours conscience de ce qu'ils ont devant eux. Et donc les classes sociales, elles émergent pas... Enfin moi, j'ai pas réussi à les... Comment dire, à les identifier de manière objective, à la manière de sociologue, démographe, mais ou économiste, mais j'arrivais à comprendre comment les gens se positionnaient, les modalités de la distinction, en fait, si on veut parler pour en Bourdieu, comment c'était vécu et approprié et identifié en fait par les gens. Et la consommation banale en fait partie, en fait. Et c'est les moments d'hospitalité qui permettent de dire ça. Et comme l'hospitalité est nécessaire au quotidien, enfin, on est tout le temps invité chez les gens. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais dans l'ethnographie, c'est-à-dire moi, quand je suis arrivée là-bas, je m'étais dit je vais faire plusieurs terrains. Donc quand je me suis décidée à travailler vraiment sur le mariage, j'ai travaillé dans les villages. Et puis à Douchanbé, je me suis dit je vais aller travailler dans un quartier d'immeubles, un peu ces gros immeubles soviétiques. Et j'ai fait du porte-à-porte. Hein. J'ai toqué aux portes de gens que je ne connaissais pas. J'ai eu un seul refus sur 50 appartements. Sinon, j'ai mangé à chaque fois. Mais vraiment, c'est pour vous dire... Ouais, voilà. Il y a une collègue qui me disait, mon interlocutrice, ça me disait, au Kazakhstan, vous voulez porte, mais moi, si j'allais à New York taper aux immeubles, hein, ils m'offriraient un repas comme ça. Et ça, pour le coup, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on la vit vraiment, quoi. Et pour l'anthropologue, c'est un rêve. Enfin, c'est fantastique de pouvoir être accueilli. Alors, je dis pas que on vous dit tout. Évidemment, c'est pas parce que vous êtes entré dans leur maison. Il y a justement le fait que l'hospitalité soit nécessaire. Il y a des règles en fait de circonscription du danger que vous représentez en tant qu'hôte inopportun, qui se traduisent par plein de choses. Donc, il faut passer les premières barrières, il faut passer les premières épreuves, etc. Mais ça, on sait qu'on est testé et qu'après, quoi. Mais on est testé. Donc, ils vous laissent rentrer, mais il y a quand même des sas de... qui permettent... Enfin, il y a des paliers, quoi. Oui ?
Juste un instant. Je crois qu'il y a une question en ligne. Je crois que c'était Assina qui avait peut-être à lire plus tard. Il faudrait qu'elle l'écrive, voilà. Donc Assina, si vous voulez poser la question... Ah, voilà. Mais avant ça aussi... Pour rebondir sur les... Oui, c'était il y a quelques minutes. Pour rebondir sur les deux derniers points, vite fait, est-ce qu'il y a, faute de classe sociale, un effet d'exclusion de ceux qui ne peuvent pas justement jouer le jeu de la dot et du mariage fastueux? En gros, est-ce qu'il y en a qui n'y arrivent tout simplement pas à suivre économiquement? Et quel effet ça peut avoir socialement d'être bloqué à ce point-là? Et deuxième point, pour... recontextualiser aussi un peu l'ouvrage, c'est pas facile à exprimer je pense dans une conférence aussi, mais l'ouvrage est bâti autour justement de la reconstruction de ces normes dont on parle depuis tout à l'heure, mais en réalité il s'articule aussi sur la façon dont les actrices essentiellement naviguent en fait dans ces normes. Ce n'est pas qu'elles vont à l'encontre, donc c'est ça, elles vont toutes dans cette direction du mariage, mais de ce que moi j'ai compris en lisant en tout cas, pas chacune à leur façon, mais parfois de façon différente. Et peut-être que, et c'est ça moi, ma deuxième question, tu pourrais en dire un peu plus en abordant une ou deux figures principales qu'il y a dans ton ouvrage. Je pense à Shabnam notamment, j'espère que je prononce bien son nom, qui donne justement... un éclairage particulier sur ces normes que tu as reconstituées sur la base de ton ethnographie.
Sur la question de l'exclusion sociale, évidemment, il y a un certain nombre de personnes qui peuvent pas suivre. Et en fait, j'ai envie de dire paradoxalement, c'est aussi des gens qu'on trouve en milieu urbain. C'est-à-dire que c'est des femmes seules avec enfants. Qui sont en rupture avec leur famille notamment, ou c'est des familles qui sont très appauvries par des situations de décès ou de santé qui, en l'absence d'une protection sociale vraiment efficace, peut avoir des effets dramatiques sur l'économie d'une famille. Et donc les effets, un des effets immédiats de l'impossibilité de participer à ces dépenses, c'est lorsqu'on a des enfants, les marier plus tôt et en général mal les marier, c'est-à-dire aux premiers offrants, quoi. Quoi qu'il y a pour un certain nombre de ces familles, des comités de quartier pour marier les enfants de pauvres, en fait, des familles pauvres. Donc il y a quand même des formes d'aide à l'échelle des quartiers et des villages où, parce que l'idée de charité est très importante. Dans cette idée aussi de réciprocité, d'échange, etc., et avalisée et promue, encouragée par l'islam. Donc la question de la charité donnée au pot commun à l'échelle du quartier pour marier à un moment donné, ça se passe notamment maintenant, au moment du nouvel an persan, donc autour du 20-21 mars, on marie les enfants des familles pauvres, les jeunes quoi, d'une vingtaine d'années, et il y a 15 mariages qui ont lieu en même temps, donc ils n'auront pas une fête à eux, mais il y aura au moins publiquement la cérémonie qui montrera qu'ils sont mariés selon les normes attendues. Et pour Shabnam, ouais. Alors Shabnam, j'essaie de me rappeler parce que c'est évidemment des pseudos, donc c'est pas les vrais noms. Mais donc Shabnam, c'est quand même elle qui est citée en exergue du résumé, parce qu'elle me dit un jour, de toute façon ici, si t'es pas mariée, t'es rien du tout. Et c'est vrai que j'avais fini par le comprendre, à force mais c'est vrai que cette phrase-là, quand quelqu'un face à vous la prononce avec l'histoire qu'elle a, ça me... Enfin, on ressent en fait la dureté d'un système qui n'empêche pas les femmes d'agir, mais qui les contraint quand même fortement. Et donc Shabnam, c'est une femme qui, elle, est née dans une famille d'instituteurs, qui a reçu plutôt une bonne éducation, mais en milieu rural, quoi. Et puis qui a été mariée avec un homme qu'elle connaissait pas, qui a été extrêmement violent. C'était une personne vraiment abominable. Et sa belle-famille était atroce aussi. Enfin, voilà, c'était une famille vraiment qui n'hésitait pas à utiliser la violence physique et psychologique contre elle. D'autant plus qu'elle était dans une situation assez particulière, qui était que, en fait, elle a été mariée au moment de la guerre civile, et elle était déjà institutrice, et il y avait tellement peu de ressources à l'époque que sa belle-famille a voulu qu'elle continue à travailler, parce que c'était en fait le seul salaire de la famille. Et ensuite, elle a peu à peu formé sa petite ONG pour commencer à percevoir les fonds justement qui étaient amenés par les agences internationales. Et en fait, ils l'ont plus ou moins esclavagisée, en fait. Hein. Enfin, ils prenaient son salaire et puis ils la violentaient, etc. Elle a fini par s'enfuir avec ses enfants. Et elle a continué à monter son ONG, qui finalement a bien marché. Elle a réussi à protéger ses enfants de son mari, ce qui était en fait certainement l'un de ses plus grands exploits. Et sa dernière fille vient de se marier, d'ailleurs. J'étais invitée au mariage en septembre, mais j'ai pas pu y aller. Dans le cadre de ce travail d'ONG, elle a travaillé avec un homme pendant une quinzaine d'années qui est un homme qui est un fermier de la région, qui a plutôt un peu de sous, quoi. En tout cas, qui a pas mal de terrain. Ses fils sont partis en migration, la migration a réussi, donc il y a des sous. Maintenant, il y a beaucoup de sous après 20 ans de migration, parce qu'il se déplace en SUV, donc on voit que ça... Voilà, mais il y a une dizaine d'années, c'était pas tout à fait le cas, mais bon, c'était quelqu'un déjà de qui avait sa petite réputation. Mais il était chauffeur pour elle, parce qu'une femme conduit très peu, en fait, dans ces milieux-là. Et puis, il y en a quelques-unes, mais très peu. Et le fait qu'elle soit célibataire et que lui la conduise partout, ça a développé des rumeurs selon lesquelles elle était devenue sa deuxième épouse. Et ça a posé un gros problème. Au début, ils ont décidé de ne pas s'en soucier. Mais au bout d'un moment, ça a posé problème. Et juste avant qu'il fasse le pèlerinage à la Mecque, son premier pèlerinage à la Mecque, parce que je viens d'apprendre aussi qu'il y allait pour la troisième fois, là. Avant ce premier pèlerinage, il a dit, écoute, donc lui est marié, hein, lui est marié. Je te demande en mariage, deviens ma deuxième épouse, sinon on arrêtera de travailler ensemble. C'est pour ton honneur, c'est pour le mien, soit on se marie, soit j'arrête de travailler avec toi. C'est comme ça qu'elle me l'a raconté. Hein. Je ne sais pas si c'est vraiment ça qu'elle a dit, mais je vous raconte ce qu'elle m'a raconté. Et il revient du pèlerinage, et au retour d'un pèlerinage, il y a, sans blague au Tadjikistan, un repas avec beaucoup d'invités qu'on appelle le rassemblement pour le pèlerinage, où on doit donner plein de cadeaux de la Mecque, etc. Et elle a été invitée, et tout le monde a vu qu'elle était là. Et donc ça donner l'idée qu'elle était, enfin, semblait avaliser l'idée qu'elle était effectivement la deuxième épouse. Et là, elle me dit, mais tu vois, Juliette, finalement, c'est la rumeur qui m'a poussée à vraiment devenir deuxième épouse. J'étais deuxième épouse par la rumeur avant même de le devenir. Et du coup, j'ai accepté de le devenir parce que je me suis dit, je veux pas laisser des fausses rumeurs sur moi. Donc, en fait, le décalage avec la rumeur, lui pesait. On est dans une petite, dans un petit bourg de milieu rural, hein, avec beaucoup d'interconnaissance. Ça me déplaisait. Deux, c'est quelqu'un qui est fiable et avec qui je travaille depuis 15 ans, on s'entend bien, c'est un bon compagnon. Et trois, il est stable économiquement et il pourra m'aider avec mes enfants. C'est une excellente raison de se marier. Hein. Toutes les cases sont cochées, en fait. Et donc elle se marie avec cet homme et elle me dit, Juliette, c'est la première fois que je suis heureuse avec un homme. Et elle est deuxième épouse. Donc et lui est là tous les jours, enfin c'est par ailleurs un homme extrêmement sympathique, mais et qui effectivement l'accompagne dans tout, quoi. Mais là, on est sur de l'interpersonnel. On n'est pas sur quelque chose où on peut généraliser en disant les deuxièmes épouses, c'est comme ça, etc. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce mariage, il s'est fait comment ? Ben, il s'est fait avec 3 personnes. Enfin, 4. Si on... Donc, les deux, donc Shabnam et son deuxième époux, l'officiant religieux et un témoin. Et c'est tout. La célébration religieuse a été... Enfin, la prière a été récitée. Oui, oui. Fini. Donc, on s'interroge sur la dimension du mariage quand on vient de passer 250 pages à expliquer à quel point ça coûtait cher, que ça prenait du temps, qu'il fallait les deux familles, etc., etc. Donc, effectivement, il y a mariage et mariage, il y a épouse et épouse. Et une dernière petite anecdote pour vous montrer aussi à quel point ces choses sont variables, c'est que une femme que j'ai rencontrée qui me dit « Moi, je suis la deuxième épouse d'un tel, donc elle est en ville, lui, il est dans un village à côté. La première épouse de cet homme meurt. Il lui dit « Bah viens, viens à la maison, plutôt que de rester dans ton appartement en ville. » Et elle a dit « J'ai préféré rester... » Elle me dit « J'ai préféré rester deuxième, j'ai refusé d'y aller. » Je me dis « Comment ça, t'as préféré rester deuxième ? T'étais... Il n'y avait plus la première. » Tu deviens première. Elle m'a dit non. Il s'est remarié, il a pris une épouse. Il a repris une première épouse. C'est quoi une première épouse ? C'est celle qui occupe le foyer. C'est celle qui assure la reproduction de la maison, de la maisonnée, de la relation avec les belles familles, qui va marier les enfants, etc. Donc là, il y a aussi des choses où il y a beaucoup de négociations, hein. Les gens ils négocient. Cette deuxième épouse, elle a dit « Moi, je veux pas aller traire les vaches, enfin, j'ai pas envie d'y aller. J'ai jamais géré une ferme, ça me fait peur, j'ai pas envie, moi je suis une urbaine, j'irai pas. » Avec ma copine qui disait « Mais t'es folle, t'aurais dû y aller !» Enfin, il y a vraiment des débats, elles se disent les choses clairement, hein. Ça, il n'y a pas de souci. « T'aurais dû y aller, là t'auras même pas d'héritage, parce que deuxième épouse, c'est pas reconnu par la loi quand même, ça je vous l'ai pas dit. La polygynie, elle est interdite au Tadjikistan. » Le détail.
Il fallait préciser. Il est là le rebondissement.
Le trigger.
Mais en fait, tout ça n'est pas légal.
Ouais. Tout ça n'est pas légal. Donc le deuxième mariage, il y a un mariage civil qui est le seul reconnu par l'État. Et le mariage religieux, c'est celui qui est reconnu par les gens. Donc le mariage religieux, aux yeux des gens, vaut un mariage. C'est même indispensable. C'est le mariage. Un mariage civil est moins un mariage qu'un mariage religieux. Par contre, l'État, il reconnaît que le mariage civil. Donc une deuxième épouse, si elle n'a pas son papier, et elle ne peut pas l'avoir si la première est déjà mariée en mariage civil, hein, donc c'est l'une ou l'autre qui doit être en mariage civil, généralement c'est la première, donc c'est elle qui héritera de son époux, la deuxième n'héritera de rien. Par contre, il y a quand même... là aussi, l'héritage des communistes qui fait qu'il n'y a pas de distinction entre enfants légitimes et illégitimes. Donc, que les enfants soient nés dans le cadre d'un mariage ou hors d'un mariage civil, ils pourront hériter des enfants, des parents, du père dans tous les cas. Mais oui, les deuxièmes épouses n'ont pas de statut officiel. Ce qui, évidemment, pose question de la porosité entre ce qu'on appelle polygynie, concubinage, adultère, etc. Tout ça n'est... Il y avait un article provocateur, je ne sais plus qui l'avait écrit, qui présentait, qui commençait par la présentation, la description des funérailles de Mitterrand. Ça vous dit rien ? Où il y avait l'officiel et l'officieuse devant le cercueil et il disait bah, « Si ça, ce n'est pas de la polygamie, qu'est-ce que c'est ?» C'était un africaniste qui avait écrit ça, ouais. Je me souviens plus de son... Non, alors c'était pas lui. Oui, ça aurait pu être lui. Mais pour expliquer qu'en fait, la polygynie, bah, oui, c'est une institution, mais c'est aussi une soumise à plein de variations pratiques, de nuances en fonction des contextes locaux, etc. Et il se trouve qu'au Tadjikistan, là où la polygynie a été très peu pratiquée au 19e siècle, parce que c'était surtout le fait de l'élite locale, des notables qui étaient très riches, en fait, elle se démocratise en quelque sorte. depuis 91 parce qu'il y a plein de femmes qui sont démariées et qui sont à la recherche de nouveaux époux. Enfin voilà, c'est un petit twist sur la polygynie.
Ouais. Limite des catégories.
Oui, voilà.
Vous avez une question, je crois.
Merci pour cette présentation passionnante. Je me demandais en fait si on voyait l'émergence d'un certain rôle de la banque et de l'endettement dans les nouveaux mariages et puis aussi dans l'acquisition de la maison, la maison de la deuxième épouse, etc. Parce que si on dépense autant pour le mariage, il ne reste plus grand-chose pour l'acquisition d'une maison. Et je me demandais également comment était perçu votre statut particulier votre statut marital ou pas, ou comment
Alors sur le rôle de la banque, je peux faire la promotion d'un programme de recherche qui vient de se terminer et dont on prépare la publication, parce qu'on travaillait justement sur la financiarisation et la bancarisation des cérémonies dans la région, en Asie centrale. Et c'est effectivement ce qui est à l'œuvre, c'est-à-dire qu'il y a une forme de rationalisation économique, des transactions économiques qui s'opèrent de façon généralisée dans la région. Alors le Tadjikistan est toujours un petit peu en retrait et toujours un peu en fin de file par rapport à d'autres pays d'Asie centrale, et je pense au Kazakhstan en particulier, mais le Kazakhstan est un pays très riche et où les dépenses sont encore plus élevées, mais où la bancarisation et la financiarisation sont vraiment avancées. Mais effectivement, on a des familles qui aujourd'hui ont tendance à peut-être moins partir en migration ou moins ponctionner sur les revenus de la migration et plus s'endetter auprès des banques. Et donc on a le développement par les banques, ça j'avais fait quelques entretiens avec des banquiers à ce sujet-là, développement de formes de prêts à la consommation, hein, c'est signalé comme ça, mais sous-titré cérémonie. Et donc il y a un taux d'intérêt spécifique lié à la cérémonie, en fait à l'emprunt cérémoniel. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après certaines enquêtes approfondies, on s'aperçoit que les gens continuent à emprunter les uns pour les autres aussi. Donc un tel va emprunter pour sa sœur, qui a déjà emprunté pour un tel, qui du coup ne peut plus emprunter à ce titre-là, etc. etc. Donc il y a quand même des chaînes. Ça, parce qu'on a quand même postulé du fait que ça allait nucléariser, en tout cas réduire, que la bancarisation et la financiarisation conduiraient à la réduction de l'interdépendance entre les familles. C'est quand même notre postulat. Alors, c'est vrai dans une certaine mesure. Et une des limites à cela, c'est le fait qu'on emprunte les uns pour les autres. Ce qui est, peut-être le côté moins attendu. Et l'immobilier est un lieu important d'investissement qui peut progresser, qui va devenir, je pense, progressivement une alternative à la très grosse cérémonie de mariage. Je pense. En fait, déjà, ça coûte de plus en plus cher. Donc, la politique de la ville, là, dans la capitale notamment, c'est de tout raser les anciens bâtiments soviétiques et de refaire des énormes buildings, mais du coup assez coûteux. Où certaines, les familles sont relogées, mais il y en a d'autres qui vont arriver. Et bref, les prix de l'immobilier explosent. Et pour la deuxième partie de la question, comment j'étais perçue au début Au début, j'étais un peu associée au groupe d'occidentales étrangères dont on se demandait un peu ce qu'elles faisaient là. Bon, un peu classique. Et puis au fur et à mesure qu'on me voyait traîner dans les mariages, je suis quand même devenue une belle fille potentielle. Ça, c'est vrai. Et en plus, je jouais totalement le jeu parce que c'était une manière pour moi d'avoir un rôle, en fait. De savoir même comment me comporter physiquement vis-à-vis... Parce que... quand même, il y a une attitude corporelle au Tadjikistan qui est très déterminée. Enfin, les relations qu'on a, il y a très peu de relations de parité au Tadjikistan ou d'égalité. Que ce soit entre hommes et femmes, mais que ce soit aussi entre personnes d'âge différent, de statut différent. Donc il y a toujours, en fait, les formules d'adresse quand on s'adresse les uns aux autres. Dès qu'il y a une personne qu'on considère comme un ou une aînée, que ce soit par l'âge, par le statut etc., matrimonial, par le statut professionnel, etc., on utilise un terme de parenté qui signifie grande sœur ou tante maternelle. Et donc ces termes-là, moi, pour les utiliser, pour être poli, il fallait que je les utilise, mais pour les utiliser, il fallait que j'ai un rôle. Parce que sinon, je ne savais pas où me positionner. Alors, quand par l'âge, c'était très clair, il n'y avait aucun problème. Mais j'avais un problème avec les gens qui étaient presque du même âge que moi, un peu plus âgés, un peu plus jeunes, mais moi, j'étais où ? Parce que normalement, le statut matrimonial donne une forme d'aînesse. Mais j'étais plus vieille que certaines femmes mariées. J'aime que beaucoup de femmes mariées, d'ailleurs. Donc, il y avait... J'ai adopté un rôle de belle-fille, donc de femme mariée, mais jeune et sans enfant. Donc, j'ai adopté ce statut de la de très grande réserve, puisque c'est ça qu'on attend des belles-filles. Hein, c'est les premières à se lever, les dernières à s'asseoir. On ne parle pas, on a la main sur le cœur, on a les yeux baissés, enfin tout ce que vous voulez. L'avantage de ça, c'est qu'on peut voir plein de choses, parce qu'on est vraiment des figures invisibles. Il y a des fois, ce n'était pas toujours possible d'être dans cette position-là. C'était possible quand j'étais chez des gens que je connaissais. Parce que du coup, les invités, bah, ils passaient devant moi, ils s'en fichaient. Quand j'étais en position d'invité, surtout dans certains milieux ruraux, du fait de la personne avec qui je m'y rendais, des fois, on me mettait en invité d'honneur. Et ça, c'est très dur d'être en invité d'honneur. Pour moi, ça l'était en tout cas. Parce que invité d'honneur, ça veut dire quoi ? Donc, on va du côté des femmes, on va avec toutes les femmes les plus âgées qui ont des voiles blancs sur la tête. Donc, physiquement, c'est des femmes qui apparaissent de manière très distincte. Enfin, une femme qui a un voile blanc, c'est pas une femme qui a un fichu coloré. Voilà. La voile blanc, elle est grand-mère, elle est belle-mère, elle est grand-mère, elle est. Voilà. C'est une figure d'autorité, de sagesse, de respect, etc. Et surtout, on est très loin, tout au bout de la pièce par rapport à la porte. Hein, c'est-à-dire qu'on est... Il y a un repas. Et donc, le repas est posé à même le sol, hein, sur une nappe. Les coussins sont autour. Et vous, on vous met dans la diagonale au fond. Et là, vous êtes coincé. Alors, c'est très bien en temps d'enquête, parce qu'on écoute tout ce qui se dit, etc. Mais j'avais l'impression... Enfin, une des difficultés de mon terrain pour moi, ça a été cette stagnation, quoi, cette immobilité. On est coincé, quoi. On ne peut plus bouger. On ne peut pas sortir, on ne peut pas... En plus, moi, je n'arrive pas à m'installer, à m'asseoir pendant longtemps, comme ça, sur les genoux. Enfin, on est pas... Et elle me disait, ah, mais tu ne sais pas t'asseoir, il faut que tu apprennes, ma petite. C'est l'endurance, ça, c'est les femmes tadjiques. Ça, et donc, y a, voilà. Donc, elles ont toléré mon impatience, beaucoup. Enfin... Elles ont peut-être aussi critiqué à côté, hein, c'est possible. Mais elles m'ont laissé sortir. Elles ont... Globalement, j'ai été super bien accueillie et les gens me parlaient assez facilement. Après, on ne me dit jamais tout, forcément. Et là où j'ai été un peu troublée pendant mes enquêtes, c'est que j'ai été accompagnée par une personne qui a été pendant très longtemps résidente du village où j'ai mené des enquêtes et qui donc... compléter tout ce que je disais, tous les entretiens, par... Dès qu'on sortait d'un entretien avec qui j'étais... Elle me dit, mais elle t'a pas dit ça, 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 ça et ça. Et donc, j'avais la sorte de la police de la réputation, la police des rumeurs avec moi, qui était par exemple mon amie, hein, mais qui me disait, mais ça, elle t'a pas raconté ça, elle t'a pas raconté que son frère avait tué l'amant de sa femme. Non, ça, elle m'a pas raconté, mais... Et donc... Et parfois, il y avait des choses, il y a eu à la fois des cas comme ça assez graves, enfin de faits assez troublants, et des fois, c'était des anecdotes du genre, oui, mais elle ne te raconte pas que quand on l'invite chez elle, elle n'offre jamais les chocolats. Voilà. Donc, elle dit que les autres sont radins, mais en fait, elles non plus, elles ne donnent pas. Enfin, et tout ça, j'ai eu... En fait, c'était aussi un problème d'enquête concrète. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de cette information que les gens ne veulent pas vous donner, mais que d'autres sont hyper contents de vous fournir ? Et en tout cas, ça rend bien compte du système de rumeurs et de réputation. C'est ça que ça veut dire, en fait. À la limite, peu importe l'information, mais ça veut vraiment dire quelque chose de la manière dont les gens se contrôlent les uns les autres, quoi. Et donc, de la difficulté qu'il y a potentiellement à s'extraire. À s'extraire, pourquoi ? Parce que déjà, il faut de l'audace, ou il faut y être forcé. Et puis, c'est le risque, qui n'est pas toujours réalisé, hein, mais on sait que c'est un risque de se couper du reste du groupe. Donc, de se couper des sociabilités, de se couper des gens qui pourraient nous aider à trouver un boulot, que ce soit en Russie ou ici, que ce soit trouver une place à l'université pour son enfant, parce qu'on sait que c'est compté qu'il y a des pots de vin, que pour obtenir sa carte grise de voiture importée de Chine et qu'il faut faire telle procédure, c'est quand même sympa d'avoir tel gars qui sait faire. Enfin, je veux dire, on est quand même dans des groupes où on se rend beaucoup service. Alors évidemment, ça se monnaie aussi, mais des fois, ça se monnaie pas par une transaction immédiate. Donc c'est aussi des... Voilà, il y a toute cette subtilité-là que j'ai pas du tout toujours saisie. Hein. Mais je me rendais bien compte de la pression que ça avait. Et le « si t'es pas mariée, tu n'es rien du tout », c'est à la fois en tant que femme dans son parcours, c'est-à-dire en fait, t'auras jamais accès au statut de belle-mère, mais t'auras non plus jamais accès à l'ensemble des réseaux qu'une femme mariée développe en tant que femme mariée. Et c'est ça, enfin, voilà, qui peut aussi s'appuyer sur les réseaux de son époux, etc. Donc, en fait, c'est là où définir ce qu'est un mariage, en fait, était compliqué. Où s'arrête le mariage, en fait ? C'est un statut, c'est des relations, c'est une fête. Oui, c'est le moment où les gens disent oui. Mais c'est aussi tout le réseau voilà, d'entraide qui se développe, d'entraide ou de compétition d'ailleurs, parce qu'on est toujours entre les deux. Entre tu viens m'aider pour financer mon mariage, mais je vais faire tellement mieux que toi. Il y a quand même et c'est comme ça que ça devient inflationniste. Voilà. Et bon, là, je le raconte sous forme d'anecdote, mais en fait, il y a comme, selon les gens, selon les relations qui existent, les amitiés, etc., ça se joue différemment, évidemment.
C'est très bien, les anecdotes.
Hein. Ouais, ouais.
Je crois qu'il y a une question en ligne qu'on peut prendre encore.
Oui. Je me permets de relayer la question en ligne de Assina qui réalise un travail similaire ou sur une thématique proche, en tout cas dans un autre pays, qui est, ça va revenir dans la question, j'ai oublié, mais donc du coup qui fait en Mauritanie, pardon, et donc qui fait un parallèle avec deux remarques pour débuter, qui dit en Mauritanie c'est catégoriquement interdit d'accéder à un mariage si la femme est tombée enceinte hors mariage. Le mariage peut avoir lieu uniquement après la naissance de l'enfant. Et un enfant né hors mariage ne peut pas hériter du père dans le code civil de la famille qui est une république islamique. Et donc ensuite, elle pose deux questions. Une première qui est sur un questionnement autour du type d'islam pratiqué et de la différence éventuelle avec la Mauritanie parce que voilà, elle dit c'est la même religion et bizarrement c'est pas les mêmes règles et donc voilà. Et une seconde, dernière petite question, est-ce que tout comme les femmes, la valeur sociale d'un homme est représentée également uniquement à travers le mariage ? Merci beaucoup par avance.
Merci beaucoup pour ces questions. Alors, l'une des différences principales dans le rapport à la législation islamique, c'est que le Tadjikistan est une république laïque. C'est pas une république islamique. Donc, déjà, comme je le disais, le mariage religieux n'est pas le mariage reconnu par l'État. Seul le mariage civil l'est. Et c'est un mariage monogame et hétérosexuel. Dans le contexte de la Mauritanie, vous disiez, c'est oui, l'enfant ne peut pas hériter, mais ça, ce n'était pas une question. L'enfant ne peut pas hériter hors mariage, donc il y a la distinction enfant légitime et illégitime qui n'existe pas au Tadjikistan. Et j'en profite pour signaler que les demandes de reconnaissance en paternité émises par les femmes au Tadjikistan sont très facilement accordées. C'est-à-dire que, en fait, un père de réputation. Donc il suffit de 3-4 témoignages de personnes qui viennent soutenir une femme qui dit « non mais c'est lui le père, il ne veut pas l'admettre », etc. En général, les cours sont assez favorables aux femmes. Alors les démarches sont pas, il n'y en a pas des tonnes, hein, mais il y en a. Et c'est notamment le cas pour les deuxièmes épouses qui veulent que le père, qui veulent protéger leur enfant à défaut d'être protégée elle-même, et donc qui veulent que le père reconnaisse leur partenaire. Leur paternité. Et en tant que deuxième épouse, comme il y a des visites fréquentes d'hommes, du même homme en principe, les voisins peuvent attester du fait que, ayant rendu visite fréquemment à cette femme, il est supposé, on sait que c'est lui le père. Voilà. Et souvent, plusieurs témoignages concordants suffisent à établir la paternité. Donc il y a là une dimension de protéger les enfants et par ricochet en fait leur mère, d'une certaine manière. Et la question... Ah oui, passe aussi par le mariage. Alors oui, mais de manière... En fait, ce qui est intéressant, c'est que pour les femmes, et c'est l'une des idées du livre, c'est dire que le mariage, en fait, est un long rite initiatique qui commence pour une femme avec son propre mariage et qui se termine avec le mariage d'un fils Autrement dit, on entre belle-fille, on en sort belle-mère. On entre dans le statut le plus dévalorisé de la société tadjik, celui de belle-fille. C'est bien pour ça que j'étais étonnée que tout le monde veuille se marier. Mais en fait, on sait pourquoi. Parce que c'est que l'entrée dans un long processus qui, par l'effet conjoint du temps, de la naissance des enfants, des relations, des échanges, va déboucher sur le statut de belle-mère qui est le plus envieux et qui est celui qui offre le plus d'autonomie pour une femme. C'est-à-dire de capacité d'agir en fait, dans l'espace social. Hein, c'est celui de belle-mère. Alors, pour les hommes, c'est pas tout à fait pareil. Parce qu'un homme qui se marie, on attend de lui qu'il se marie, évidemment. Mais il ne devient pas chef de maison. Un homme qui devient, qui est un homme marié, enfin qui se marie, en fait, reste sous l'autorité de son père et pendant un certain nombre d'années. Comment se passe en fait la cohabitation intergénérationnelle au Tadjikistan? Les fils aînés on marie dans l'ordre des fratries, en principe, hein, donc l'aîné ensuite, l'aîné en premier, le deuxième ensuite, etc. Et au fur et à mesure que les enfants grandissent, puisqu'ils sont l'attendu du mariage, les fils vont se séparer. Donc ils vont, avec leur père, se faire construire une maison à côté et se séparer. Le dernier né reste avec ses parents. Donc une femme qui épouse le benjamin d'une fratrie sait qu'elle va vivre avec ses beaux-parents jusqu'à leur décès. Et ils vont hériter de la maison, à ce titre. Donc le mariage pour un homme, il est hyper important. Mais je dirais que lui, plus que le mariage d'un fils, c'est la circoncision d'un fils en fait qui marque l'événement de l'homme mature. Et d'ailleurs, la circoncision implique très peu les femmes. C'est pas une cérémonie de femmes. Alors je l'ai pas incluse dans la série des cérémonies matrimoniales. Je suis pas allée jusqu'à la circoncision pour dire que ça validait des statuts féminins. Non, ça valide quasiment aucun statut féminin en fait. La circoncision, ça valide le statut d'un homme devenu père qui a su faire de son enfant un fils, puisque c'est la sexuation de l'enfant en fait, hein. La circoncision, c'est le moment où un enfant asexué devient un garçon, en précisant qu'au Tadjikistan la circoncision, elle a lieu tardivement, hein. Elle a lieu entre 6 et 9 ans. Donc c'est ce moment de un homme a entre 6 et 9 ans après la naissance de son fils pour rassembler suffisamment d'argent pour circoncire son fils. Et du coup, prendre sur lui ce statut d'homme mûr, mature, honorable. Voilà, donc le mariage est important, mais on embête beaucoup moins un homme qui n'est pas marié et qui se marie plus tardivement. Je te regarde parce que c'est toi qui as posé la question d'Assina, mais je pourrais regarder Assina... par la caméra. En fait, les hommes se marient plus tardivement aussi quand ils partent en Russie, etc. Et ça, on attend d'eux qu'ils se marient à un moment donné parce que c'est ce qu'ils doivent à leur famille. Il y a une idée de nécessité. Mais leur sexualité prémaritale n'est jamais condamnée et n'est jamais contrôlée, alors que la virginité reste un impératif pour les femmes. Hein. Donc le drap taché de sang n'est plus contrôlé. Mais il est quand même validé par le mari qui doit le voir. Donc c'est quand même l'une des différences principales.
Nous arrivons au bout du temps imparti. Est-ce qu'on accorde une ultime question? Allez.
Et je réponds vite.
Approchez-vous. Sinon, on ne vous enregistre pas, on ne vous entend pas.
C'est juste pour savoir quelle langue vous parliez et si vous aviez utilisé des interprètes au début.
Ouais. Oui, alors j'ai commencé par apprendre le russe, donc oui, j'ai utilisé des interprètes au début. Donc à Douchanbé, on peut, enfin c'est-à-dire dans la capitale, il n'était pas très difficile de se débrouiller avec le russe. Et puis après, sur place, j'ai appris le tadjik, donc c'est du persan. Le tadjik, ensuite en milieu rural, m'a posé quelques difficultés, je dois dire. J'ai découvert aussi l'existence d'une forme de verlan en tadjik. Je pensais qu'on était les seuls détenteurs de ce type-là, mais il y a une vallée tadjik qui inverse les syllabes de tous les verbes. Voilà. Mais là, effectivement, dans les formes très dialectales, mon amie qui était avec moi, qui me permettait en fait, d'avoir accès aux femmes, en fait, elle m'aidait aussi pour comprendre un certain nombre de choses. Mais disons que le... Donc, je dirais pas que c'était une interprète, mais elle m'aidait beaucoup quand même. Elle m'aidait beaucoup. Mais j'avais quand même cet avantage par rapport à un interprétariat total qui est que je comprenais une grande partie de ce que les gens me disaient. Je comprenais aussi la manière dont mon ami formulait certaines questions. Et je pouvais m'immiscer dans la conversation très facilement. Mais l'avantage que ça a eu d'avoir un tiers, c'était notamment de leur laisser le champ libre, en fait. Je lançais trois questions et finalement, elles finissaient par avoir souvent des discussions entre elles. Et en fait, ça m'a beaucoup aidée. C'était peut-être plus intéressant qu'un entretien strict en face à face, qui est toujours un peu impressionnant et qui ne débouche pas toujours sur les attendus, quoi. Donc, mais j'ai transformé mes lacunes linguistiques en... Voilà. Voilà un autre twist de fin de soirée. Oui,
bienvenue dans la tour de Babel anthropologique. On capitalise sur nos faiblesses linguistiques également. Nous arrivons au bout du temps imparti. Je ne vais pas conclure, évidemment. Simplement encourager à lire, bien évidemment, cet ouvrage. Mais de manière générale, les textes écrits par Juliette, elle a écrit bon nombre d'articles sur le mariage, mais aussi sur l'émigration, sur la mort, et qui sont tous... très marqué avec cette sensibilité ethnographique, cette minutie, ce souci du détail et de la nuance, vraiment cette recherche de la complexité tout en essayant à chaque fois de rester le plus clair possible, ce qui est une immense qualité, je trouve, de l'ensemble de ces textes. Voilà, et je vous demanderai bien évidemment avec moi de la remercier une fois de plus pour cette conférence qu'elle vient de nous donner. Merci beaucoup, Juliette.
Merci beaucoup.